voix nue. Cette semaine, Zoé Sfès s'entretient avec Suzy Morgenstern. Ce soir, cancer rose et fleurs tardives.
Bonsoir Suzy Morgenstern.
Bonsoir Zoé.
Quelle joie, mais c'est déjà le dernier épisode de cette voix nue que nous vous consacrons, Suzy. On a évoqué votre enfance, la manière dont vous écrivez pour les enfants, dont vous vivez de cette plume et dont, surtout, vous vous servez de ce talent pour créer l'envie d'écrire. Vous avez beaucoup écrit pour les enfants, vous avez écrit en français, à quelques exceptions près. Un livre sur votre enfance que vous avez été obligé d'écrire en anglais parce que les mots qui vous venaient, c'était les mots de votre langue maternelle. Mais vous avez écrit, et relativement tard aussi, quelques très beaux romans pour les adultes qui sont beaucoup des romans autobiographiques en réalité et des romans qui parlent en fait de votre vie amoureuse. Le premier était consacré à votre mari, Jacques. On en a beaucoup parlé. Et puis, Jacques a disparu. Ça a créé des choses dans votre écriture. Et vous avez eu ce bonheur d'avoir un deuxième grand amour dans votre vie. Ça, vous l'avez raconté dans un livre qui s'appelle « Fleurs tardives ». Qu'est-ce que c'était cette rencontre et pourquoi vous avez eu envie d'en faire un livre que vous avez écrit d'ailleurs à quatre mains?
J'aime beaucoup écrire à quatre mains. J'ai écrit un livre avec chacune de mes filles et maintenant avec Emma. C'est un titre « Deux têtes est meilleur qu'une tête ». Avec Emma, je vois sa passion se monter dans l'écriture et c'est une grande, grande satisfaction. Avec Georges, qui n'est pas du tout écrivain, qui n'est pas du tout un intellectuel, Georges a été horloger et agriculteur en Israël. Il a fondé un kibbutz en Israël dans sa jeunesse. Et moi, j'aime le contagion de l'écriture. J'aime faire écrire autour de moi et avoir un projet avec quelqu'un. Alors, j'ai proposé à Georges, que j'ai rencontré par Internet, à l'instigation de mon gendre, qui m'a dit que j'étais encore potable. Mais ça, c'était il y a 15 ans. J'ai proposé à Georges, j'ai écrit le premier chapitre, et il a tout de suite joué le jeu, et il m'a suivi. Et c'était un jeu entre nous. C'était pas un livre qui devait être publié. On pensait jamais à la publication. D'ailleurs, lui, il est tellement discret. Il aurait pas aimé que ses petits-enfants, son fils le lise, ce livre sur notre intimité. Et c'est vraiment un livre très intime parce que moi, je pense qu'on est là sur Terre pour partager nos vies et nos secrets. Et j'aime ça, j'ai pas de pudeur. Et lui, beaucoup. Alors, il s'est beaucoup décoincé avec moi. On a fini ce livre. Georges est suisse-allemand. Moi, je suis américaine. Et j'ai quand même voulu avoir quelque chose de bien corrigé. Et j'ai donné à ma fille pour corriger. Et elle a dit, tu sais, maman, c'est vachement bien, tu devrais le montrer à l'éditeur. L'éditeur, en l'occurrence, de Jacques Addy. Et je lui ai envoyé le manuscrit. Et le lendemain, elle m'a dit, c'est un beau cadeau que tu nous fais là. Et on sera fiers de le publier. On n'en croyait pas. J'ai dit ça à Georges. Il était plus embêté qu'autre chose et content quand même. Et puis, on a gagné un peu de sous. 3 000 euros.
3 000 euros, tous les deux.
Oui, on ne savait pas quoi faire. On pensait aller à l'hôtel pendant... on ne l'a toujours pas dépensé. Et les livres ont tellement bien marché, mais c'était fou. J'étais interviewée partout. J'ai jamais eu, et c'était frustrant en plus, autant de médias pour mes livres pour enfants. Tu écris un livre pour les vieux, et c'est vraiment un livre pour les vieux. Et c'est une bombe. J'étais à la télé, des émissions Europe numéro 1, j'ai oublié son nom, Christophe. Il a fait toute une heure d'émission sur le livre. Lui, il parlait du livre pendant une heure. Et le livre était épuisé après quelques semaines et réimprimé. Il y a des surprises comme ça. Des fois, tu penses avoir écrit un chef-d'œuvre et ça ne marche pas du tout. Et puis, un livre qui n'était pas destiné à être un livre fait un succès comme ça. Un succès, disons, modéré quand même. Mais on en a beaucoup parlé. Ça a touché à quelque chose, cette sexualité de vieux. Combien de gens viennent me dire c'est vous nous donnez de l'espoir. C'est vrai qu'il y a de l'espoir. Quand mon mari est mort, j'ai pleuré 10 ans. J'ai vraiment pleuré, matin et soir. Je fonctionnais le jour. J'enseignais encore. Mais dans ma tête, je dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais aimer encore? Qu'est-ce que j'aimerais aimer? Aimer et puis sexe, j'aime beaucoup. Et c'était un cadeau invraisemblable de rencontrer Georges. Et pour lui, parce que lui, ça l'a projeté dans un monde qu'il ne connaissait pas du tout. Et moi aussi, parce qu'il m'a donné la Suisse. Pas mal la Suisse.
Pas mal comme dot. Il était doté, Georges. C'est vrai que vous avez raison. Vous, ce qui avait particulier dans ce livre, c'est que vous avez abordé la question de la sexualité. Vous décrivez cette première fois avec Georges. Vous vous rencontrez, vous voulez y aller, et mais c'est dur, en fait.
Je l'ai rencontré à la gare de Lyon. Et il avait pris une chambre, le Novotel à la gare de Lyon. Et puis, il était tellement coincé. Il te regardait pas dans les yeux. Il parlait très peu. Il était comme tétanisé. Et à la réception, et il a pris la clé, il m'a demandé de l'attendre, et il va mettre sa valise, et puis il revient et on boit un coup. Et j'ai dit, mais moi j'adore voir les chambres d'hôtel. Ce qui est vrai, j'adore les chambres d'hôtel. J'accepte souvent des invitations, rien que pour découvrir des chambres d'hôtel. Et alors, je suis montée avec lui dans l'ascenseur. On aurait dit qu'il allait à son exécution. Et il a ouvert la porte. Et d'abord, j'ai demandé si je pouvais téléphoner à ma fille. On n'avait pas de portable. Et parce que je lui avais envoyé un mail comme quoi peut-être je reviens pas ce soir. C'était prémédité. Et elle m'a crié au téléphone, reviens immédiatement. Et j'ai poussé Georges au lit. Je l'ai poussé, je me rappelle physiquement, je l'ai poussé au lit. Je lui ai dit qu'on n'avait pas le temps de faire la cour. Et c'était tout ce que j'attendais, c'était magnifique. Tout ce que j'attendais depuis mes 10 ans de plus, parce que Jacques était longtemps malade. sans ça, sans cette intelligence d'avoir su le pousser au lit, d'avoir osé, c'était terriblement audacieux et ça me ressemblait pas tellement. Je n'avais pas une grande expérience avec des hommes. Jacques était mon premier homme et j'ai écrit « Premier amour, dernier amour ». Et sans ça, bon, on aurait pris un pot et adieu. Ma sœur, ma grande sœur, m'avait toujours dit ses conseils. Elle était assez fatale et elle m'a dit « get physical ». Comment traduire ça?
Comment traduire en français, on
get
pourrait
physical,
dire
« touche-le ».
Vas-y physiquement, quoi, touche-le, oui, effectivement, touche-le. Engage-toi physiquement, mais ouais. Oui, c'est très difficile à traduire ça.
Oui, « get physical », et j'ai suivi ses conseils.
On parle de Georges que vous avez rencontré par Internet, ce qui est aussi l'une des clés moderne et inattendue. Vous avez des correspondances avec des gens. Est-ce que Georges vous a séduit par sa correspondance? Dans les listes des bonheurs que vous avez sur votre site, il y a écrit « écrire un mail ».
Oh, je consacre une heure que j'ai déjà fait. Une heure, au moins une heure par jour avec les mails. Et c'est une récolte extraordinaire. Une amie qui est veuve récente, ce matin m'a dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Quel bonheur! Une amie de mon âge. C'est tellement varié. Je vis seule. À Nice. On est chacun, Georges vit à Neuchâtel, moi je vis à Nice, et de temps en temps on se voit, c'est idéal, idéal. Et dans ma solitude, j'ouvre l'ordinateur et il y a toute la récolte des mails, dont un mail de vous, que vous voulez m'interviewer, c'est formidable. C'est des surprises sans arrêt. Je sais pas comment on a vécu avant.
Vous avez dit que vous avez écrit beaucoup avec vos filles. Ce sont vos filles qui vous corrigent. Vous avez écrit avec votre fille, Alia, un livre qui s'appelle « La La Langue ».
Et « Terminal, tout le monde descend ».
Et « Terminal, tout le monde descend ». Très important. Quel est le type de plaisir comme ça que vous vous accordez? Comment ça marche?
D'abord, j'ai écrit 4 livres avec mon amie Jill Rossner. Alibi, Paris, Alibi, New York, Alibi et Europe, Alibi. Et là, on était en face et on écrivait une phrase et elle a dit vachement bien, ouais. Et on a vraiment élaboré phrase par phrase ce livre ensemble. Et c'était très drôle. Avec Alia, pour terminer, tout le monde descend. Moi, j'attaquais et elle se défendait. C'était un conflit mère et fille, un duel mère et fille, et très thérapeutique, parce qu'à la fin du livre, on s'est mis à se comprendre. Comprendre mon point de vue, son point de vue. Par exemple, quand elle revient pleurant, un drame terrible, je pensais qu'elle était violée. Et elle a eu 4 en chimie. Et j'ai hurlé, mais c'est pour une foutue note que tu pleures comme ça. Tu pleures comme ça si ta mère est morte, mais pas pour une note de chimie. Je comprenais mal le système. Moi, j'étais paumée dans le système. Et quand elle a expliqué... Alors, ça, c'était chapitre alternatif. Avec Maya, privée de mon bec, elle est endocrinologue, elle a fourni toute la partie médicale, c'est l'histoire d'une petite fille diabétique. Et on a travaillé tantôt ensemble, tantôt séparés. Et avec Emma, pour ce livre qui va s'appeler, je crois, « La vie en vert ».
Emma, c'est votre petite fille.
Oui, 18 ans. Et là, on a commencé ensemble, puis je lui ai dit, OK, le prochain chapitre, c'est pour toi. Et puis, elle faisait le chapitre, puis moi, je faisais un chapitre. Et puis, on a fait, il y a 2 semaines, on a fait un chapitre complètement ensemble. Et c'était vraiment bien. Alors maintenant, on va terminer comme ça.
Votre petite-fille, c'est l'écriture d'une jeune fille de 18 ans. Qu'est-ce qui vous intéresse? Comment est-ce que vous regardez cette écriture? Est-ce que vous lui dites, non, là, oui, là?
On a eu notre première dispute dans le livre. Elle n'aimait pas ma réaction à une agression. Il faut que je réfléchisse qu'est-ce que c'était. Mais elle m'a convaincue de son point de vue. Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais c'est quelque chose que je voulais lui donner parce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'introduire quelqu'un à l'écriture que d'entreprendre un roman ensemble et d'aller du début à la fin. Et je vois qu'elle prend confiance et au fur et à mesure, elle prend confiance en elle. Et je lui ai dit, parce que j'étais très malade, et j'ai dit, si jamais il faut le finir toute seule, tu sauras faire. Elle dit, ah mais non. Et elle a beaucoup plus le déclic, l'idée d'intrigue. Elle fait tourner et retourner l'histoire que je n'ai pas. Et ça, elle a des séries.
Elle l'a hérité de son visionnage intempestif.
Elle a intégré les cliffhangers. Elle l'a intégré. Ça porte beaucoup, oui. Et puis, quel plaisir quand j'écris un chapitre et elle me répond, c'est super. Ah, oui, j'aime beaucoup travailler à deux. Mais mon éditeur, Arthur Schmidt, a toujours dit, non, travailler à deux, c'est un jeu. La seule vraie écriture, c'est de travailler seul.
Vous l'avez dit, Suzy, vous avez été malade et vous avez écrit sur votre maladie, vous avez écrit sur ce cancer. Le fait de pouvoir écrire sur cette maladie, est-ce que ça vous a aidé?
J'ai une attitude telle que la maladie ne m'a pas changé la vie. J'ai eu de très bons conseils d'un médecin alternatif, un cancérologue alternatif, qui m'avait d'abord dit « il n'y a pas d'alternative à la chimio ». Et j'ai suivi ses conseils parce qu'il était question que je fasse pas la chimio, parce que j'étais à un stade tellement avancé qu'on m'a donné peu de chance. Et il m'a dit surtout de faire confiance à mon équipe médicale, ce que j'ai fait complètement. Et cette équipe médicale était tellement extraordinaire. Ils jubilaient avec mes bons résultats. Quand j'allais faire la chimio, ils entraient dans la pièce avec les résultats de la dernière fois, en train de danser et de dire hallelujah. Et la maladie était une aventure de plus dans une vie pleine d'aventures. La plus grande était peut-être de venir en France, changer de langue. La maladie, peut-être pendant 5 minutes, quand on te dit que tu as peu de chances de survivre, vraiment, j'ai pleuré. Et puis fini. J'ai plus pleuré. Je savais quel était mon travail. J'allais à mes séances de chimio toutes les semaines. J'adorais mon hôpital, Centre Antoine Lacassagne à Nice. Et même une fois que mon hémoglobine était tellement basse qu'il pouvait pas faire la chimio, j'avais l'impression d'être Cendrillon privé du bal. Je crois que ma plus grande qualité, c'est que j'ai un sens d'émerveillement très très aigu, et tous mes merveilles et pas d'attente. J'ai dit à une amie qui se plaint de ne dormir pas plus que 5 heures la nuit. J'ai dit, mais 5 heures, c'est formidable. Il faut baisser tes attentes.
Vous avez des rituels, vous? Est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Est-ce que votre journée, justement, ressemble un peu à la précédente? Est-ce que vous avez une manière de construire de votre journée dont vous savez qu'elle va vous donner du bonheur?
Je me lève, je fais pipi, C'est bizarre que personne ne fait pipi dans les livres. Et je prends mon petit déjeuner, c'est un moment exquis. Si je pouvais ne manger que des petits déjeuners, je serais très heureuse. 3 petits déjeuners par jour. Et je prends une douche, je m'habille, j'écris toujours habillée. Très mal habillée, mais habillée. J'écris jamais en pyjama ou en chemise de nuit. Je suis habillée. Je suis prête à affronter la journée. Je branche l'ordinateur. Avant, c'était écrire, mais maintenant, c'est l'ordinateur. Je fais mon poème du jour et j'écris mon journal intime. Je commence par écrire mon journal intime, qui n'est pas intime du tout parce que je l'envoie à tous mes amis. Et puis, je décide de ce que je vais écrire parce que j'ai plusieurs chantiers. Bon, il y a la famille, trop de fils, il faut écrire et, 3 par an. J'écris une famille, je commence une famille, trop de filles. Il y a plein de propositions qui viennent. C'est super. Je commence une série qui s'appelle Perla sur une petite fille de 3 ans. Alors, je l'ai fait en rime. Et puis, ils m'ont dit qu'ils voulaient en prose. Et puis, j'ai fait en prose. Et puis, ils ont dit, non, le rime, c'était bien. Alors, j'ai refait en rime. Et maintenant, je sais pas où on va. Mais j'apprécie le feedback, la réaction de l'éditeur. Et je suis prête, je suis très souple. On veut changer, on change. J'écris toute la journée. Mon bureau est dans la cuisine maintenant. Alors, j'écris quelques phrases et puis je mange. Et j'écris encore quelques phrases et je mange. C'était comme ça que je corrigeais mes copies. Je corrigeais mes copies avec quelques tablettes de chocolat à droite, une bouteille de rouge à gauche. Et je vous assure qu'à la fin de la correction, les derniers étudiants avaient de très bonnes notes.
Vous avez écrit sur votre mère? Ou pas, finalement?
Oui. Dans la première fois que j'ai eu 16 ans, ma mère était une très grande figure dans ma vie, très positive, sauf pour... J'ai surtout écrit sur elle dans Confession d'une grosse patate. Et là, c'était là où elle était très défectueuse, où la psychologie n'existait pas encore à cette époque. C'est comme ma grand-mère qui disait, quand elle nous faisait une reproche, elle disait, je me tairai dans mon tombeau. Et j'ai toujours dit ça à mes enfants aussi. Et puis un jour, j'ai dit, mais non, c'est complètement faux. Il faut apprendre à se taire avant. Et j'ai appris. J'ai appris durement avec mes enfants, à peu près. De me taire.
En
comme l'autre jour que ma fille, Maya, m'interrogeait sur ma sexualité avec son père et sur sa conception, et j'ai répondu à question après question, et puis à la fin, je lui ai dit, je peux poser une question? Et elle m'a dit non. Mais maintenant, je demande si je peux poser une question. C'est pas une science exacte, la maternité.
Suzy Morgenstern, on arrive au bout de ces entretiens. Je me rends compte qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, et pourtant, elle a traversé toute votre vie, puisque vous êtes née dans une famille de femmes, vous avez eu des filles, vous écrivez sur votre enfance, où votre destin, c'était de se marier. Aujourd'hui, vous écrivez des personnages de petites filles, jeunes filles, qui sont très ouvertes au monde. La question du féminisme, est-ce qu'elle vous a traversé dans votre vie ou pas?
Mais dans ma jeunesse, non, parce que je demandais rien. J'acceptais mon destin d'être une femme mariée, une mère, et puis la question de salaire ou d'opportunité n'entrait pas en jeu. C'était mon combat pour entrer dans l'orchestre de jazz, qui était mon premier combat féministe. Ce métier est tellement solitaire, hein? On n'est pas dans la société vraiment. Et nous, on a une charte des écrivains de jeunesse. J'adhère, mais comme c'est à Paris, je ne participe pas beaucoup, à regret. Mais il se bat pour le métier. Et j'ai beaucoup d'amis qui se battent. Et je les remercie. Mais moi, pas tellement. Je vis dans ma solitude à écrire. Mais je suis une obsédée des nouvelles. Je suis tout.
Vous suivez l'actualité.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'écrire alors, dans les années qui viennent?
Un thriller politique policier. Juste de beaux livres qui donnent envie de lire.
Un livre de sorcière?
Un livre de sorcière. Oui, un livre de sorcière. Un livre sur la laïcité, la sorcière. Un livre qui saura définitivement comment maigrir.
On va vous le souhaiter, Suzy. Merci beaucoup, Suzy Morgenstern.
Merci, Zoé. C'était un grand plaisir
de passer ces 5 soirées ensemble. À bientôt.
J'espère.
Voix nue. Zoé Sfès s'entretenait avec Suzy Morgenstern. Prise de son, Yvan Turc. Réalisation, Guillaume Baldi. Attaché de production, Daphné Abgral. Coordination, Sandrine Trainer. À Voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.